Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
L'anthropologue écossais James George Fraser fut le premier à recueillir les mythes et rites du monde entier. Il publia des milliers d'histoires entre 1911 et 1915 dans les 12 volumes de son Rameau d'or. Voici ce qu'écrivait Fraser. En publiant le cycle du Rameau d'or, j'ai pris soin de le composer de monographies complètes en elles-mêmes et indépendantes les unes des autres, de sorte que le lecteur, qui ne s'intéresserait qu'à une branche du vaste problème dont je m'occupe, pourrait comprendre l'une ou l'autre de ces études sans avoir à lire le cycle entier. Mais sous le strict écossais, sous le protestant ultra-puritain, se cachait un monde que Wittgenstein avait saisi et qui fut dévoilé dans le numéro 23 de la revue Agone. Je cite « Fraser est bien plus sauvage que la plupart de ces sauvages, car ceux-ci ne seront pas aussi considérablement éloignés de la compréhension d'une affaire spirituelle qu'un Anglais du XXe siècle. » C'est en effet ce qu'on entend dans cette émission datant de 1981. Elle est présentée par une longue introduction aussi précise que nécessaire de Pierre Cipriot.
C'est Georges Godbert qui, avec la collaboration de Jean Cazeneuve de l'Institut, qui va assurer le commentaire, Georges Godbert, donc, qui va vous présenter le Rameau d'or de James George Fraser, qui paraît aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Le Rameau d'or est composé de deux livres, Le roi magicien dans la société primitive. L'introduction dans l'édition est faite par Michel Isard, la traduction est de Pierre Sain. Et Tabou et les périls de l'âme, introduction de Michel Isard, traduction de Henri Père. L'ensemble est présenté par Nicole Belmont, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Michel Isard, maître de recherche au CNRS. Je crois qu'il faut féliciter Guy Scheller d'avoir pris le risque d'éditer ce gros volume de 1000 pages, et je crois que ce volume passionnera tous ceux qui s'intéressent aux sociétés en général, à l'homme en particulier, car on sait mieux ce qu'est l'homme quand on a suivi cette extraordinaire enquête menée par James George Fraser, un des fondateurs au XIXe siècle de l'ethnographie moderne. L'homme primitif n'est pas un arriéré, c'est le père de l'homme d'aujourd'hui. Et en même temps, l'homme primitif, c'est nous enfants. Une enfance que nous nous masquons souvent, mais qui est latente dans toutes nos réactions. Quelques indications biographiques sur James George Fraser. Il naît en Angleterre à Glasgow en 1854 dans une famille très pieuse, où, comme il était d'usage chez les protestants écossais, on lisait surtout les écritures et on apprenait les langues anciennes. On doit à Fraser, à cet égard, une édition de Pausanias et une édition des Fastes d'Ovide. À l'université, Fraser découvre un livre qui va lui faire donner au mot mythe un tout autre sens que celui qu'on lui donnait au XIXe siècle. Ce livre, c'est « Primitive culture » de Taylor, publié en 1870. Avant Taylor, le mythe était une fable, une invention. Avec Taylor, il devient une histoire vraie, ou au moins une façon de voir le monde, et qu'il faut prendre au sérieux, quel que soit le contenu de cette histoire. Car dans le mythe, c'est l'homme tout entier, sentant, pensant, craignant, aimant, rêvant, qui s'exprime. En 1887, un ami de Fraser, un orientaliste, William Robertson Smith, lui passe commande pour deux articles de l'Encyclopédia Britannica, dont il est le co-directeur. Ce seront les articles « Tabou et totémisme » qui paraissent en 1887. C'est en 1890 que Fraser publie les deux premiers volumes du cycle du Rameau d'or, qui sera achevé seulement en 1915 et comprendra alors 12 volumes. Qui était James George Fraser? Eh bien, utilisant un livre paru en 1970 en Angleterre, de Downey, Nicole Belmont et Michel Isard, qui ont signé la préface du Rameau d'or dans Bouquin, nous donnent sur Fraser les précisions suivantes. L'année de la parution du premier Rameau d'or, Fraser a 36 ans. Il est fellow de Trinity College et s'est déjà acquis une flatteuse réputation. Et l'homme Fraser, on nous décrit un personnage timide, assez effacé, s'exprimant sans aisance, courtois, respectueux des convenances, pétri de sérieux. Ce travailleur acharné, 12 heures de travail par jour pendant 60 ans, est le contraire d'un mondain. Il n'a pas d'amis. Il n'aura ni élève ni disciple. Un solitaire, donc, paraissant sortir d'un autre siècle, désuet dans ses goûts, conformiste dans ses opinions, méfiant à l'endroit de tout ce qui est nouveau. La théorie de la relativité ne le convainc pas, la psychanalyse n'est pas loin de l'horrifier. Aisé sans être riche, Fraser travaille chez lui, au milieu d'une bibliothèque qui, à la fin de sa vie, ne réunira pas moins de 30 000 volumes. Il communique plus facilement par écrit qu'oralement et déteste les affrontements et la polémique. Attaqué, il le sera à plusieurs reprises, il ne répond pas. Depuis la fin des années 80, Fraser a suivi de près le développement de la recherche ethnologique, dans son pays comme à l'étranger. Par sa correspondance, mais aussi par des contacts directs, il est en relation avec la plupart des ethnologues de terrain, dont quelques-uns donneront à l'ethnologie des œuvres maîtresses aujourd'hui devenues classiques. Avec la publication des œuvres de la maturité, l'audience et l'influence de Fraser augmentent, son rayonnement devient international, ce qui ne donne que plus de prix à la curiosité avec laquelle il interroge ses jeunes collègues et la générosité d'esprit avec laquelle il les encourage. Et je crois que c'est l'intérêt du cycle du Rameau d'Or de nous rendre compte d'une manière extrêmement précise, par une étude comparée, de quantité de sociétés qui ont disparu ou qui ont adopté des formes de civilisation tout à fait différentes que ces formes de civilisation primitives que les observateurs de Fraser ont pu connaître sur le terrain ou ont pu communiquer par des documents.
Le roi magicien dans la société primitive. Le roi du bois.
Diane et Virbius.
Qui ne connaît le Rameau d'Or de Turner ? Dans ce paysage, irradié des reflets empourprés dont l'imagination et le génie du grand peintre savaient embraser et colorer jusqu'aux scènes naturelles les plus splendides, le petit lac de Némi, le miroir de Diane, ainsi l'appelaient les anciens, nous apparaît comme en un mirage, nichant ses eaux lisses dans un vallon verdoyant des monts Albins. Ce spectacle reste à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont contemplé. Sur les berges de l'eau, impassibles, se juchent tout assoupis, deux villages et un palais de pur style italien, dont les jardins en terrasse descendent abruptement jusqu'au lac. En ce recoin sylvestre se jouait périodiquement dans l'Antiquité un drame étrange. Si on veut le comprendre parfaitement, il faut essayer de se faire une idée exacte de l'endroit, car, comme on le verra plus tard, il existait un lien subtil entre la beauté naturelle du lieu et les crimes odieux que, sous le masque de la religion, on y perpétrait souvent, crimes qui, après tant de siècles écoulés, jettent encore une ombre de tristesse sur ces forêts et ces eaux tranquilles, comme le fait le souffle glacé de l'automne par une de ces brillantes journées de septembre, alors qu'aucune feuille ne semble faner. Les monts Albins constituent un ensemble imposant de montagnes volcaniques qui se dressent brusquement dans la campagne romaine, encore en vue de la ville, et forment le dernier éperon que les Apennins détachent vers la mer. Deux de ces cratères éteints sont aujourd'hui occupés par deux belles nappes d'eau, le lac Albin et son frère mineur, le lac de Némi.
Le lac de Némi est encore, comme autrefois, entouré de bois, où au printemps les fleurs sauvages s'épanouissent, aussi fraîches qu'elles l'étaient probablement il y a 2000 ans. Il est si profondément encaissé dans le vieux cratère que la surface tranquille de ses eaux limpides est rarement ridée par le vent. De tous les côtés, sauf un, les berges, tapissées d'une épaisse et luxuriante végétation, descendent à pic jusqu'au bord de l'eau. Au nord seulement, une bande de terrain plat s'étend entre le lac et le pied des monts. C'est au milieu de ce décor que se jouait la tragédie. C'était là, au cœur même des collines boisées, sous les pentes abruptes couronnées aujourd'hui par le village de Némi, que la déesse sylvestre Diane possédait un antique et fameux sanctuaire, rendez-vous des pèlerins venus de tous les coins du Latium. Des corniches fouillées de marbre et des frises en terre cuite contribuaient à la splendeur extérieure de l'édifice que semblent avoir également rehaussé des tuiles de bronze doré. Tel était donc le sanctuaire de Diane à Némi, demeure qui convenait parfaitement à la maîtresse des montagnes, des vertes forêts, des clairières solitaires et des torrents mugissants, comme l'appelle Catulle.
Cependant, ce n'était pas uniquement à cause de son site que le sanctuaire de la déesse Sylvaine continuait à être le type ou la réduction en miniature du passé. Jusqu'à la décadence de Rome, on y observa une coutume qui semble nous transporter immédiatement de la civilisation à la barbarie. Dans le bosquet sacré se dressait un certain arbre auprès duquel, à toute heure du jour, voire aux heures avancées de la nuit, un être au lugubre visage restait embusqué. À la main, il tenait un glaive dégainé. De ses yeux inquisiteurs, il paraissait chercher sans répit un ennemi ardent à l'attaquer. Ce personnage tragique était à la fois prêtre et meurtrier, et celui qu'il guettait sans relâche devait tôt ou tard le mettre à mort afin d'exercer lui-même la prêtrise à sa place. Telle était la loi du sanctuaire. Quiconque briguait le sacerdoce de Némi ne pouvait occuper les fonctions qu'après avoir tué son prédécesseur de sa main. Le meurtre perpétré, il restait en possession de la charge jusqu'à l'heure où un autre, plus rusé ou plus vigoureux que lui, le mettait à mort à son tour. À la jouissance de cette ténure précaire s'attachait le titre de roi. Mais jamais tête couronnée n'a dû dormir d'un sommeil aussi fiévreux, hanté de rêves aussi sanguinaires, car d'un bout de l'année à l'autre, hiver, été, sous la pluie ou par le soleil, il avait à monter sa garde solitaire. Fermer pour quelques brèves secondes sa paupière lassée, c'était mettre sa vie en jeu.
Diane, toutefois, ne régnait pas seule dans le bocage de Némi. Deux divinités inférieures partageaient son sanctuaire sylvestre. L'une était l'Égérie, la nymphe à l'onde claire, qui, sortant en bouillonnant des roches de basalte, tombait en gracieuses cascades dans le lac, au point nommé le Mol, parce qu'y étaient bâtis les moulins du village actuel. Ovide nous parle du murmure de ce ruisseau où, dit-il, il se désaltéra souvent. Les femmes enceintes sacrifiaient à Égérie parce qu'elle lui prêtait, comme à Diane, le pouvoir de leur accorder une facile délivrance. Selon la tradition, la nymphe avait été l'épouse ou la concubine du sage roi Numa. Il s'était uni à elle dans le secret du bosquet sacré, et les lois qu'il donna aux Romains avaient été inspirées par son commerce avec cette divinité.
La deuxième divinité mineure qui réclame notre attention à Némi, c'est Virbius. Suivant la tradition, on reconnaissait en lui le jeune héros Hippolyte, auquel le centaure avait enseigné l'art de la vénerie. Le bel et chaste adolescent passait ses jours à poursuivre les bêtes sauvages sous la verte ramée, en compagnie d'Artémis, la vierge chasseresse, la Diane des Grecs. Fier de cette amitié divine, Hippolyte rejetait avec mépris l'amour des femmes. C'est ce qui causa sa perte. Aphrodite, piquée par son dédain, inspira à Phèdre, sa marâtre, de s'énamourer de lui. Et lorsqu'il écarta ses avances incestueuses, elle l'accusa auprès de Thésée, père du héros. Ce dernier crut la calomnie, et s'adressant à Neptune, dont il était le fils, il le supplia de venger le délit imaginaire. Tandis qu'Hippolyte conduisait son char sur les bords du golfe Saronique, le dieu marin fit sortir des flots un taureau furieux. Les chevaux terrifiés s'emportèrent, Hippolyte fut jeté à bas de son char et ses coursiers le tuèrent en le traînant à leur suite. Mais Diane, qui aimait Hippolyte, persuada Esculape, le guérisseur, d'employer ses herbes curatives et de rendre à la vie le jeune et beau chasseur. Jupiter, indigné qu'un mortel pût revenir des bords de l'Achéron, expédia aux enfers le praticien officieux en personne. Diane cacha son favori à la vue du dieu courroucé, et l'enveloppant dans un gros nuage, elle déguisa ses traits en augmentant le nombre de ses années, puis elle le transporta bien loin jusqu'au vallon de Nemi, où elle le confia à la nymphe Égérie. C'est au fond de ce bocage italien qu'Hippolyte, inconnu et solitaire, vécut en roi et qu'il dédia une enceinte sacrée à Diane. Il eut un fils de toute beauté, Virbius, qui, nullement épouvanté par le sort de son père, menait un attelage de fougueux coursiers qui alla se joindre aux Latins dans la guerre contre Énée et les Troyens. Virbius était vénéré comme divinité non seulement à Nemi, mais encore ailleurs, car il nous est dit en particulier qu'en Campanie, un prêtre spécial était attaché à son service. Les chevaux étaient exclus du bocage et du sanctuaire d'Aricie, puisque des chevaux avaient tué Hippolyte.
L'analyse initiale de Fraser conduit à envisager une équivalence entre le couple Hippolyte-Artémis et un couple Verbius-Diane. Verbius pouvant être envisagé comme le premier roi du bois, le couple Verbius-Diane serait la première forme d'un couple associant le prêtre de Nemi et sa déesse. Le roi du bois, descendant de Verbius par le moyen d'une chaîne de meurtres rituels, est l'époux mystique de la Diane sylvestre des monts Albins. Divinité tant de la nature sauvage, celle des bois et des animaux que l'on chasse, que de la nature domestiquée, celle que traitent l'agriculture et l'élevage. En clair, Artémis Diane apparaît ici sous le double aspect d'une divinité de la nature en général et de la fécondité. Si ce prêtre, dès lors prêtre de la nature et de la fécondité, porte le titre de roi alors qu'il ne détient aucune souveraineté de caractère politique, c'est qu'il doit y avoir à l'inverse un rapport entre la royauté en tant qu'elle est effectivement détentrice de souveraineté et la fécondité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir sans sacré. Et c'est ménager la place à venir de la magie, car si la souveraineté du roi est associée à la fécondité de la nature, l'instauration de la royauté doit aller de pair avec la possibilité d'une manipulation des forces naturelles qui commandent au mécanisme de la fécondité. Si le roi est magicien, alors le magicien peut devenir roi.
La magie sympathique. Principe de la magie. Si nous analysons les principes de la pensée sur lesquels est basée la magie, nous trouverons qu'ils se résolvent à deux. Le premier, c'est que tout semblable appelle son semblable ou qu'un effet est similaire à sa cause. Le second, c'est que deux choses qui ont été en contact à un certain moment continuent d'agir l'une sur l'autre alors même que ce contact a cessé. Nous appellerons le premier principe loi de similitude et le second loi de contact ou de contagion. Du premier, le magicien conclut qu'il peut produire tout effet désiré par sa simple imitation. Du second, que tout ce qu'il peut faire à un objet matériel affectera également la personne avec laquelle cet objet a été un moment en contact, que cet objet ait formé ou non partie de son corps. En voici quelques exemples.
Les Indiens de l'Amérique septentrionale s'imaginent, dit-on, qu'il suffit de dessiner la forme d'une personne sur le sable, la cendre ou l'argile, ou encore de considérer un objet quelconque comme le corps de l'ennemi, puis de frapper cette image ou cet objet avec un bâton pointu, ou de la blesser de toute autre façon, pour que l'individu ainsi figuré soit affligé d'une blessure pareille à celle qu'a reçue la figuration. Par exemple, quand un Indien objet bhuai en veut à quelqu'un, il se met à confectionner une statuette de bois ressemblant à son ennemi. Puis, à l'aide d'une aiguille ou d'une flèche, il transperce soit le cœur, soit la tête de l'image, acte qui, à l'idée de l'Indien, blessera instantanément son adversaire à la partie correspondante du corps.
Les Indiens du Pérou modelaient dans de la graisse mêlée à des céréales l'effigie d'un individu qu'ils redoutaient ou détestaient, et ensuite brûlait l'image sur la route où l'ennemi devait passer. Cela s'appelait brûler son âme. Mais ils établissaient une minutieuse distinction entre les différentes espèces de matériaux à employer pour confectionner ces effigies, selon que la victime était un Indien ou un Viracocha, c'est-à-dire un Espagnol. Pour tuer un Indien, ils employaient le maïs et la graisse de lama. Pour tuer un Espagnol, ils employaient le froment et la graisse de porc, parce que les Viracocha ne mangeaient pas de lama et préféraient le froment au maïs.
Un charme malais du même genre est le suivant. On prend des rognures d'ongles, des poils enlevés aux sourcils et à la chevelure de la victime visée, ainsi que de sa salive, afin de représenter chaque partie de son corps. Puis, à l'aide de tout cela, mêlé à la cire recueillie dans une ruche abandonnée par un essaim, on façonne une effigie. Il convient alors de faire roussir l'image à petit feu au-dessus d'une lampe, et cela durant 7 nuits consécutives, et de dire « Ce que je fais bouillir n'est pas de la cire, c'est le foie, le cœur, la rate d'un tel que je fais griller. » À la 7e fois, on brûle l'image et la victime meurt. Un autre charme malais consiste à fabriquer un cadavre long d'un pied avec de la cire prise dans une ruche abandonnée. Ensuite, on perce l'œil de l'image, ce qui aveuglera l'ennemi. On perce le ventre de la figurine, ce qui rendra malade l'ennemi. On perce la tête de la marionnette et l'ennemi aura une céphalalgie. Et une bronchite s'ensuivra si l'on blesse l'image à la poitrine. Néanmoins, si votre but est de tuer votre adversaire sur le champ, c'est de la tête aux pieds qu'il conviendra de pourfendre le simulacre, puis de l'envelopper dans un suaire, tel un mort, de prier pour lui comme on prie pour un défunt, et en fin de compte, de l'enterrer au beau milieu d'une route où votre ennemi passera sûrement. Mais afin que son sang ne retombe point sur votre tête, dites « Ce n'est pas moi qui l'enterre, c'est Gabriel qui l'enterre. » De cette façon, Gabriel sera responsable du meurtre, et infiniment mieux que vous-même, cet archange est en mesure de supporter un pareil fardeau.
Au Japon, quand un Aino veut obtenir la destruction d'un ennemi, il fait une image du bonhomme avec de l'armoise ou des boules de neige et l'enterre dans un trou, la tête en bas, ou sous le tronc d'un arbre pourri, en priant un démon d'emporter l'âme de l'homme ou de faire pourrir son corps avec l'arbre. Voici comment une femme Aino essaie parfois de se débarrasser de son mari. Elle prend la coiffure de l'homme et en confectionne une espèce de poupée. Puis elle l'enterre profondément dans le sol, tout en exprimant le vœu que son mari pourrisse et meure comme la coiffure. De tels envoûtements sont familiers aux Japonais eux-mêmes.
En Birmanie, un amant évincé a quelquefois recours à un sorcier. Il l'invite à faire une petite effigie de la belle dédaigneuse, où sera compris un morceau de ses vêtements ou quelque chose qu'elle a eu l'habitude de porter. Certains charmes ou médecines entrent aussi dans la composition de la figurine. Ensuite, on la pend et on la jette à l'eau. Cela aura pour résultat, croit-on, de rendre la jeune fille folle.
Chez les Indiens Chaipwe, il y avait bien peu de jeunes gens ou de jeunes filles qui n'eussent une petite image de la personne dont ils voulaient gagner l'amour. Ils piquaient le cœur de la figurine et introduisaient de la poudre magique dans les trous, tout en l'appelant du nom de la personne qu'elle représentait, et lui demandait de répondre à leur affection. Autrefois, les sorcières et les sorciers faisaient fondre au feu de la cire pour faire fondre d'amour le cœur de leur bien-aimé.
Les indigènes de la Nouvelle-Calédonie emploient des effigies pour maintenir ou rétablir l'harmonie dans un ménage. Deux bottes en forme de fuseau, l'une représentant le mari, l'autre la femme, sont attachées ensemble solidement pour pour symboliser et assurer l'affection du couple. Ces bottes sont composées de différentes plantes et de fils tirés de la ceinture de la femme et d'un morceau du tablier de l'homme. L'axe de chacune d'elles est formé par une aiguille en os. Ce talisman a pour but de rendre indissoluble l'union des deux époux. Aussi, tous deux le gardent-ils comme un trésor. Si, malgré cela, une brouille domestique survient, le mari se rend à la sépulture familiale avec le précieux objet. Là, il allume un feu d'un bois d'une espèce particulière, fumige le talisman, l'asperge avec l'eau d'une source prescrite, le fait tourner autour de sa tête, puis en remuant l'aiguille dans la botte qui le représente, il dit « Je change le cœur de cette femme pour qu'elle m'aime. » Si la femme reste récalcitrante, il attache une canne à sucre à la botte et la lui présente par l'entremise d'une tierce personne. Si elle mange de la canne à sucre, c'est qu'elle sent revenir son amour pour son mari.
Un autre avantage de la magie homéopathique est de guérir ou d'empêcher la maladie. Dans la Grèce ancienne, quand un homme mourait d'hydropisie, on faisait asseoir ses enfants les pieds dans l'eau jusqu'à ce que le corps fût brûlé. On supposait que cela avait pour but d'empêcher la maladie de les frapper. D'une façon analogue, d'après le principe que l'eau doit aller à l'eau, chez les indigènes des montagnes qui avoisinent Rajamahal dans l'Inde, le corps d'une personne morte d'hydropisie est jeté dans un fleuve. On croit que si on enterrait le corps, la maladie reviendrait et emporterait d'autres personnes. Les anciens hindous accomplissaient une cérémonie compliquée basée sur la magie homéopathique pour guérir la jaunisse. Son principal objet était de rejeter la couleur jaune sur des êtres ou des objets jaunes par nature, tels le soleil, et de fournir aux patients le teint vermeil de la santé en l'empruntant à une vigoureuse source de vie, par exemple à un taureau rouge.
Dans la Grèce moderne, la jaunisse est connue sous le nom de mal d'or. Et tout naturellement, on peut la guérir avec de l'or. Pour obtenir une guérison complète, il suffit d'opérer comme suit. Prenez une pièce d'or, de préférence un souverain anglais, puisque l'or anglais est le plus pur, et mettez-le dans une mesure de vin. Exposez aux étoiles le vin avec la pièce d'or pendant 3 nuits, puis buvez-en 3 verres tous les jours jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Le breuvage vous aura complètement débarrassé le corps de la jaunisse. Le remède est souverain dans le sens le plus strict du terme.
Là où les croyances à la télépathie ont cours, c'est la guerre avant tout, qui éveille la relation sympathique entre amis éloignés. La guerre dont l'appel cruel et émouvant retentit au tréfonds des êtres. Les parents restés au foyer et dans l'anxiété sont désireux d'utiliser le lien sympathique pour le plus grand profit des êtres chers qui, combattant au loin, peuvent tomber d'un moment à l'autre. Aussi, pour atteindre un but à la fois légitime et louable, ceux de l'arrière ont recours à des stratagèmes qui nous paraîtront pathétiques ou ridicules selon que nous considérerons leur objet ou le moyen adopté pour le produire. Quand un Dayak de Bornéo est à la chasse de tête, sa femme, ou s'il est célibataire, sa sœur, doit nuit et jour porter une épée pour qu'il puisse penser constamment à ses armes. De jour, elle ne dormira pas et elle ne se couchera pas avant 2 heures de la nuit afin que son mari ou son frère ne soit point surpris dans son sommeil par un ennemi.
Dans une peuplade de Birmanie, la femme d'un guerrier absent est tenue d'observer certaines règles. Tous les 5 jours, elle se repose et ne se livre à aucun travail. Elle remplit d'eau jusqu'au bord un gobelet de terre et tous les jours y met des fleurs. Si l'eau baisse ou si les fleurs se flétrissent, c'est un présage de mort. De plus, il lui est défendu de dormir sur le lit de son mari pendant l'absence de celui-ci, mais elle nettoie la literie et la déploie toutes les nuits. Chez les Toraja du centre de Séleb, quand un groupe d'hommes est parti à la chasse des têtes, les villageois qui demeurent chez eux, et en particulier les épouses des chasseurs de têtes, sont tenus d'observer certaines règles pour ne pas contrecarrer l'action de l'absent. D'abord, l'accès au lobo, maison de l'esprit, est condamné, car les esprits des ancêtres, qui vivent dans cette maison, sont maintenant partis avec les guerriers. Ils veillent sur eux et les protègent. Si quelqu'un pénétrait chez eux en leur absence, ils entendraient le bruit et reviendraient, furieux d'avoir été détournés de l'expédition. Quand l'esprit du chasseur de têtes revient chez lui dans son sommeil, c'est l'expression des Toraja pour désigner le rêve d'un soldat, il doit y trouver tout en bon ordre et rien ne doit le choquer. C'est pour l'observation de ces règles, disent les Toraja, que les âmes des chasseurs de têtes sont couvertes ou protégées. Pour leur donner des forces, pour les empêcher de se décourager trop vite, on jette du riz, matin et soir, sur le parquet de la maison. Les femmes vont et viennent aussi constamment avec une espèce de plante dont les gousses sont si légères et si floconneuses que le vent les emporte facilement. Cela rend les hommes agiles.
Jean Cazeneuve, de l'Institut, livre pour conclure cette première émission consacrée au Rameau d'Or, ses remarques et réflexions.
Les travaux de Fraser qui sont contenus par ce gros volume qui vient d'être publié dans la collection Bouquins sont parmi les plus importants de cet auteur. Ils contiennent non seulement des études remarquables sur plusieurs mythes et sur des rites, dont les rapprochements sont éclairants, mais surtout, il s'appuie sur ces exemples pour conduire à une théorie complète et originale des rapports entre les hommes et le surnaturel. Ici, cette théorie prend son point de départ dans une explication de la magie et se développe ensuite dans celle du tabou. La théorie de la magie, que nous expose Fraser, n'est certes pas adoptée par tous les spécialistes des sciences humaines. Mais on peut dire que tous sont obligés d'en tenir compte, soit pour la discuter, soit pour la compléter. En fait, elle est pour tous maintenant le point de départ d'une réflexion sérieuse sur les fondements, les buts, les procédés de la magie. Et elle a le mérite évident d'être claire, simple, en même temps que complète et placer un très haut niveau de la réflexion. En outre, elle s'applique aussi bien à la magie blanche qu'à la magie noire. Le premier point de cette théorie, c'est l'affirmation que dans ses rapports avec les surnaturels, l'homme a commencé par la magie. C'est ensuite seulement qu'il en est venu à la religion. Et c'est pour cela que la royauté, elle aussi, a débuté par le personnage du roi magicien. Ensuite seulement, on a eu le roi prêtre et le roi Dieu. Quelle est la différence entre la magie et la religion, selon Fraser? Le magicien est un homme qui agit sur les choses et sur les êtres sans intermédiaire, c'est-à-dire en maniant directement les forces spirituelles qui sont répandues dans le monde. Il ne fait donc pas appel en principe à des esprits ou à des divinités. Et si des démons interviennent dans la magie, ce n'est pas comme des êtres que l'on prie d'agir de telle ou telle façon, mais comme des auxiliaires qui obéissent de façon, pour ainsi dire, mécanique et qui personnifient seulement le déroulement des opérations. Alors pourquoi, un peu partout, au fur et à mesure que les conceptions évoluaient, la religion a-t-elle succédé à la magie? Eh bien, dit Fraser, c'est tout simplement parce qu'à la longue, les hommes ont constaté son insuccès. Souvent, par exemple, le sorcier a beau verser de l'eau en répétant les formules et en accomplissant les gestes requis, La pluie ne vient pas et les récoltes se dessèchent. Alors on en vient tout naturellement à imaginer qu'il y a des puissances surnaturelles ayant leur volonté et leur personnalité. On leur adresse des prières. Elles peuvent les exaucer ou au contraire refuser de les écouter. L'homme ne peut que supplier les êtres puissants que sont les dieux, leur demander d'être miséricordieux. Cela, c'est la religion qui dérive de la magie, mais qui en est bien différente. Car la magie n'admet aucune transcendance. Elle est positiviste. Elle suppose que dans la nature, un événement ensuite un autre de façon nécessaire. Ce que fait le sorcier, le chaman ou le medicine man doit être suivi de l'effet attendu. Tandis que la cérémonie religieuse cherche seulement à influer sur la volonté divine qui n'est pas liée par le rituel du prêtre. En ce sens, la conception fondamentale de la magie est identique à celle de la science. Son système repose sur la confiance absolue dans l'ordre et l'uniformité de la nature. Le magicien se comporte donc comme s'il était convaincu que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais la magie est déterministe, tout comme la science. Et c'est tout simplement parce qu'elle s'en sépare ensuite, par une conception totalement fausse de la nature même des lois, qu'elle est, en un sens, par ailleurs, totalement différente de la science. La magie est orientée par les règles de la pensée symbolique. Le symbole est généralement lié à ce qu'il représente par un rapport de ressemblance ou de contact. C'est en fait la loi de l'association des idées qui s'exerce ainsi. Une chose fait penser à une autre parce qu'elle lui ressemble. Exemple, la photo d'une personne et cette personne. Ou bien parce qu'elle lui est liée. Exemple, une personne et son vêtement. C'est pourquoi, selon Fraser, la magie est une mauvaise application de ce principe. Le magicien croit que s'il agit sur une chose, cette action produit ses effets sur ce qui est lié à cette chose, soit par similitude, soit par proximité. Il y a donc deux sortes de rituels magie, les uns par la loi de similitude, ce qui donne la magie dite homéopathique ou imitative, et les autres par la loi de contact ou de contagion, ce qui donne la magie sympathique. Dans la seconde partie du Rameau d'or, contenue dans le volume dont nous parlons, Fraser explique ensuite les tabous en partant des principes qu'il a exposés à propos de la magie. Ce qui est interdit par les tabous, c'est ce qui est lié par ressemblance ou par contiguïté à tout ce qui risque de mettre en danger l'âme des individus. Ainsi, Fraser a eu tout au moins le mérite de proposer un principe d'explication clair et très général des principaux rites primitifs, c'est-à-dire de toutes les attitudes de l'humanité à l'égard du surnaturel.
C'était Un livre des voix, Le Rameau d'or, le roi magicien d'après l'œuvre de Fraser. Une émission de Pierre Cipriot, réalisée par Georges Godbert. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 mai 1981. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site des Nuits par franceculture.fr.
Shanti, Shanti, Shanti.